Je pense que nous avions déjà abordé l'histoire de la conscientisation du peuple d'Israël pour ce qui concerne le mal. Je pense que vous voulez nous en dire pas mal plus long là-dessus.
Oui, parce qu'on avait interrompu, nous avions interrompu l'histoire à son moment donné, là, mais il faut continuer. Alors, nous avons vu qu'il y avait du mal dans chaque personne, qu'il y avait du mal entre Adam et Ève dans le couple, il y avait du mal entre frères, entre Caïn et Abel, il y avait du mal aussi avec la Babylone, c'est-à-dire toutes les nations entre elles qui, au fond, voulaient être Dieu et se prenaient pour Dieu, et ça a créé des désordres innombrables. Ensuite, nous avons vu le déluge, où finalement, l'interprétation d'Israël, c'était que l'homme a péché, que Dieu, ben, il fauché, puis que finalement, ben, peut-être qu'il va se réconcilier. Et là, ben, oui, Noé va sauver ça, va être un témoin du salut de Dieu à ce niveau-là par l'arche. Et nous avons vu que l'homme va apprendre toute la conscience. Parce que le but de Dieu dans tout ça, c'est construire l'homme. Un homme libre qui devient puissant, responsable, pour en arriver à un voyage de noces avec Dieu. Mais dans toute cette démarche, il y a des ratés. Alors, c'est le mal dans le monde. Et il y a du mal aussi dans la création parce qu'elle est imparfaite.
Est-ce que je comprends bien que Dieu veut permettre à l'homme de choisir le bonheur qu'il lui destine?
Oui, évidemment, il faut que l'homme le choisisse.
Parce que, si je comprends bien aussi, et ça me paraît évident, l'homme n'est pas au préalable heureux.
C'est-à-dire qu'il est construit pour le devenir s'il se prend en main, s'il obéit à Dieu, c'est-à-dire s'il respecte toute sa nature et s'il respecte le dessein de Dieu qui est d'en faire presque un Dieu, comme Dieu lui-même, parce que c'est le but de Dieu, ça, d'arriver à une communion parfaite avec l'homme, mais que l'homme, c'est pas imposé, ça, cette démarche-là. L'homme la découvre et il se construit dans cette démarche. Mais il y a toutes sortes de ratés. Alors, il y en a même au niveau de la création où l'homme doit dominer cette création. Alors, des fois, cette création-là, elle est vue avec un esprit magique, c'est-à-dire qu'on déifie les forces de la nature, tout ça. Mais Israël va se purifier dans tout ça, il va découvrir tout ça. Et même quand on va voir avec l'histoire d'Abraham tout à l'heure, ça va être encore pire en un sens, parce qu'à un moment donné, là c'est qu'Abraham comprend qu'il va falloir qu'il sacrifie son fils premier-né à Dieu. Mais avant, revenons sur la création, l'homme doit dominer la création, il doit la parfaire, il doit la connaître pour la dominer, et non pas s'y soumettre aveuglement. Le soleil peut nous tuer, la chaleur peut nous tuer, les éclairs peuvent nous tuer, il faut rester intelligent là-dedans.
Mais ça, c'est une vérité de tous les temps, là. Elle existait à l'Ancien Testament.
Elle existe encore aujourd'hui, et il y en a encore aujourd'hui qui peuvent allumer une chandelle quand ils tonnent pour se préserver ou mettre une médaille miraculeuse. C'est évident que, bon, c'est pas la médaille qui est miraculeuse, c'est la Vierge qui est miraculeuse. Elle peut passer par une médaille, une plaque.
C'est ce qu'elle représente.
Une plaque de tôle. Oui, mais c'est pas la représentation elle-même, c'est la personne de la Vierge qui est miraculeuse. Alors, vaut mieux un paratonnerre qu'allumer une chandelle. Si, on peut allumer une chandelle pareil quand elle titonne. Alors, l'homme devient de plus en plus puissant, et c'est ça la crise aujourd'hui. On a comme séparé science et foi. Par exemple, la nouvelle cathédrale aujourd'hui, ben, c'est LG2, c'est LG3. On a réussi à maîtriser les éclairs. On a réussi à les mettre dans des petites boîtes pour démarrer nos autos. On maîtrise plus la création, mais on l'a brisée, on l'a pas respectée. Alors, tout ça, c'est des ratés. Alors, Dieu nous dit, ben, replacez-vous, brisez pas, s'il n'y a pas la branche sur laquelle vous êtes assis, la création, c'est les animaux, tout ça. Alors aujourd'hui, c'est tout un mouvement écologique qui est en fait tout à fait biblique et évangélique.
D'accord. Est-ce que vous allez nous parler d'Abraham? Je pense que c'est la suite.
Bon, là, nous sommes rendus maintenant à Abraham. C'est l'histoire des justes. Bon, évidemment, là, Israël s'aperçoit que le peuple est pas mal corrompu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, là encore, Dieu va détruire. Ben non, Dieu, il a déposé son arc, il ne détruira plus. Là, Abraham dit, ben voyons, faut pas se fâcher. S'il y avait 50 justes, tu ne détruirais pas quand même toute la ville. Bon, s'il y en avait 40, il ne détruirait pas. S'il y en avait 30, il ne détruirait pas. S'il y en avait 10, s'il y en avait 5. Puis là, finalement, Abraham, il a peur de dire s'il n'avait pas, parce qu'il a bien trop peur. Alors, il reste à 5. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il n'y en a aucun qui est juste. Seul Jésus-Christ sera juste. Alors, vous voyez que Dieu ne détruira pas l'humanité, même si tout le monde est injuste. Au contraire, il va la sauver par Jésus-Christ.
Même si tout le monde est pécheur.
Ben, absolument. Et c'est ça qu'on va voir, d'ailleurs, avec Luc 24, c'est-à-dire des disciples de Maïs. Mais continuons notre petite randonnée.
Oui.
Alors, donc, avec Abraham, ça veut dire que en dépit de tout mal, il faut garder confiance en Dieu, qui nous révèle son salut et qui nous le promet par ses témoins. Alors Caïn et Abel, c'est Caïn lui-même qui sont protégés. Le déluge, c'est l'ange de Noé. Avec Abraham, même si on vient à perdre son propre fils, faut pas encore désespérer. Alors même si on perd son propre fils, c'est la pire chose qui peut arriver à un homme, c'est de perdre son propre fils. Eh bien, encore là, Dieu est capable de continuer son plan. Et c'est ça la foi d'Abraham. Ensuite, il arrive Moïse. Mais là, c'est si tout le peuple lui-même est esclave, Seigneur, vas-tu sauver tout le peuple, pas rien que chaque personne? Oui, tout le peuple. Et là encore, Moïse va être le témoin de ce salut-là en libérant Israël. Mais évidemment, c'est pas long qu'Israël retombe encore dans le trouble. Et avec Josué, pour reconquérir, là, c'est la promesse de la terre promise, d'ailleurs, qu'on avait avec Abraham, la promesse de la terre promise. Et on l'a avec Moïse, mais Moïse rentre même pas dans la terre promise. Autrement dit, même en Palestine, ce sera pas encore le salut définitif, le salut temporel. Et avec David arrivera un gros sommet, mais encore là, David lui-même sera pécheur. Alors voyez-vous, c'est toujours l'histoire du mal, mais toujours l'histoire d'une promesse. Et finalement, on arrive à Job. Alors autrement dit, tout ce qu'on a vu jusqu'à date, la réponse d'Israël, c'était tout le mal quand même vient de notre égoïsme. S'il n'y avait pas d'égoïsme dans le monde, il n'y aurait pas de mal. Mais avec le livre de Job, nous allons apprendre d'autres choses de plus profond encore. C'est que l'égoïsme n'est pas la seule réponse au problème du mal dans le monde et à tout le mal qui arrive. Alors Job, tout l'Ancien Testament était bâti sur la justice.
Mais comment je vous interromps, qu'est-ce que vous voulez dire que l'égoïsme n'est pas la réponse au problème du mal? Est-ce qu'il y en a qui le croient?
Oui, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on croyait. Tous les professeurs de théologie de Job croyaient ça. Pendant une trentaine de chapitres, ils viennent voir Job et ils disent « Mon beau Job, si ça va mal, c'est parce que tu as dû pécher. » Et Job dit « J'ai pas plus péché que vous autres, c'est pas parce que j'ai péché. » Alors autrement dit, il y a des souffrances qui arrivent à des hommes qui le méritent, comme on dit là.
Oui.
Puis il y a des souffrances qui arrivent à des hommes qui ne méritent pas du tout.
On a l'impression qu'il y en a plus de cette sorte-là.
Des fois. Alors ça devient injuste. Alors si l'Ancien Testament était basé sur la rémunération, autrement dit, si t'es vertueux, ça va bien, si t'es pécheur, ça va mal, si t'es vertueux, tu vas avoir la vie éternelle, si t'observes la loi, si t'es pas vertueux, t'auras pas la vie éternelle. Job dit, c'est pas suffisant cette théologie-là.
Le système de rétribution, il est pas...
Il est pas suffisant pour expliquer tout ça.
Donc, dans l'histoire de l'Ancien Testament, pour poursuivre notre histoire du mal dans le peuple d'Israël, je pense qu'on est rendu à Job.
Oui, l'histoire du mal et des promesses, ou si on veut, l'éclairage de la révélation là-dessus. Alors, avec l'histoire de Job, Job est un livre dont on a bien besoin aujourd'hui, qu'on a besoin de connaître. Elle est fascinante, cette histoire.
Parce que Job était particulièrement malheureux, je pense.
Particulièrement malheureux, mais particulièrement un témoin d'une théologie qui, en fait, était insuffisante et qui, aujourd'hui, peut poser encore problème à beaucoup de gens. Alors, quelle est cette histoire? D'abord, Job, est-ce que c'est un personnage historique, ça? C'est évident que c'est un livre poétique. À l'origine, il y a peut-être eu, dans les âges lointains, un personnage qui y ressemblait. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le texte qu'on a. Alors, c'est quoi l'histoire de Job? D'abord, c'est l'histoire d'un homme qui va extrêmement bien. Tout y a réussi.
Il était riche, je pense,
dans
l'histoire.
Il était riche, il y avait beaucoup d'enfants, tout le monde était heureux. Il était même plus capable de compter ses richesses, tellement qu'il était heureux.
Un privilégié.
Évidemment, tout ça est poussé au bout, là, on pourrait quasiment dire caricatural, parce qu'il y a un message là-dedans. C'est ce qu'on appelle en hébreu le midrash, là, c'est-à-dire on veut faire un enseignement, alors on grossit les traits du personnage, comme les films de Sergio Leone, là, le bon, la brute et le truand.
Oui.
C'est un gros trait. Mais alors,
pour mieux faire passer le message.
Pour mieux faire comprendre le message. Alors, ce qui arrive, c'est que Satan, qui au fond est un serviteur de Dieu, faut pas avoir peur de Satan. Satan est un serviteur de Dieu. Même s'il travaille contre Dieu, Dieu l'utilise, finalement, ça rend service à Dieu. Alors, Satan, qui fait quand même partie un peu de la cour céleste, arrive devant Dieu, puis il dit, écoute, Dieu, là, ton homme job, là, il est peut-être pas si bon que ça. Peut-être qu'au fond, c'est parce qu'il y a la foi en toi, au fond. Peut-être parce que ça réussit bien. S'il y avait des épreuves, là, c'est pas sûr que ça irait aussi bien puis qu'il y aurait la foi encore. Alors, veux-tu, on va aller tester ça.
On aime plus facilement quand tout va bien.
C'est ça, quand tout va bien. Alors, au fond, l'épreuve, la définition de l'épreuve dans l'Ancien Testament, c'est un test. C'est un coup dur qu'on reçoit, puis qu'on reçoit, là, puis pour voir si on va rester debout, si on est fidèle. Alors, c'est comme quand on passe un test là, pour les licences, là, on passe un examen, les cours, on passe des examens pour voir si on a les connaissances, on passe des tests. C'est le sens du mot épreuve, ça, ou si on veut de la tentation. Dans le Nouveau Testament, elle aura un peu une autre définition, cette tentation-là, là, mais restons dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un test. Autrement dit, Satan il dit, est-ce qu'il va passer le test? Moi, j'y crois pas. Il n'y a pas tant de foi que ça en toi, ça, Dieu. Là.
On va voir comment il fonctionne
dans
la difficulté.
Dans le malheur, on va voir comment ça marche, c'est ça. Alors, il commence par y enlever ses richesses matérielles. Je vais perdre tout. Bon.
Vous dites, il commence par lui enlever Satan ou Dieu?
Satan.
Satan lui-même?
Satan qui est toujours à l'origine du mal dans le monde.
D'accord.
Qui personnifie le malin, qui nous envoie sur des fausses routes, sur des fausses pistes. Alors, puis qui, au fond, il sert Dieu, parce que même en faisant ça, Dieu lui va envoyer des témoins pour la foi et pour le salut.
Alors, toutes les formes de mal, c'est à Satan qu'on doit les reprocher.
Dans la théologie chrétienne, absolument.
Alors, poursuivons.
Et Satan est tout à fait vaincu déjà par le Christ, comme on verra dans le Nouveau Testament. Alors, il n'y a pas deux dieux, un du mal, l'autre du bien, c'est pas ça. Dans la religion chrétienne, dans la révélation chrétienne, Satan est tout à fait une créature de Dieu, soumise à Dieu, mais révoltée. Et il va servir à Dieu. Dieu va l'utiliser. Alors donc, on voit tout de suite que Dieu utilise le mal que l'homme fait et que même le Satan fait. Alors, à ce moment-là...
Une de ses créations qui a mal tourné.
Absolument. Bon. Puis qui en est d'autres à mal tourner, puis qui crée la peur, puis l'angoisse. Puis... Mais il ne faut pas avoir peur de Satan, parce qu'il est tout à fait impuissant avec le Christ, il est tout à fait impuissant avec Dieu, et finalement, il nous sert. Il ne faut pas le servir, par exemple. Mais finalement, il nous rend plus forts si on bénit Dieu en sa présence, et si on fait les signes de croix, et le reste. Au fond, autrement dit, le Christ... Satan, pour le Christ, pas un problème.
Donc, Job se retrouve dépourvu de ses biens.
Bon, alors, dépourvu de ses biens, ça commence à mal aller. Ensuite, il est atteint dans ses enfants. Ses enfants chicanent, ça va mal. Oh, c'est décourageant. Ensuite, c'est lui-même, dans sa santé physique, ses enfants, ses richesses. Finalement, il sent mauvais, comme un tas de fumier.
C'est son univers qui s'écroule.
Tout est tombé. Et là, il va arriver le pire, c'est sa femme lui-même. Là, l'esprit de Satan va rentrer dans sa femme. Ça, c'est le pire, parce que c'est la personne la plus proche de lui. Un peu comme Saint-Pierre, ou avant d'être saint, là, comme Pierre, quand il demande à Jésus, va pas à Jérusalem, parce que ça va mal aller, continuons à jouer aux cartes, va pas là, ils vont te tuer, ça va aller mal. Jésus dit arrière, Satan, autrement dit, Dieu n'a jamais dit non à la souffrance. C'est Satan qui dit non à la souffrance. Et c'est pour ça, nous autres, quand on refuse une souffrance nécessaire, c'est une source de maladie mentale et physique.
Mais c'est difficile d'avoir du discernement.
C'est
là,
très difficile et ça prend beaucoup d'amour et une relation amoureuse très forte et ça prend la foi, en fait, pour accepter de souffrir au moins un bon sang terrible, pour au moins d'aller chez le dentiste. Bon, alors on continue.
Comment s'appelait la femme de Job?
Bon, justement, la femme de Job, là, comment elle s'appelait? Je m'en rappelle pas.
D'accord.
Alors, la femme de Job, ce qui est important, c'est qu'elle dit à Job, arrête de croire en Dieu. Si tu ne croyais pas en Dieu, ça serait encore pire. Ça serait mieux. C'est parce que tu crois en Dieu que c'est pire. Fait que ça, c'est la pire tentation de Job. La pire tentation, c'est de ne plus croire en Dieu parce que ça irait mieux s'il ne croyait plus en Dieu. Alors, Job, évidemment, ne succombe pas à cette tentation-là. Mais, tous ces professeurs de théologie, pendant 30 chapitres, arrivent pour dire à Job... Job, c'est parce que t'as péché que ça va mal. Tu sais bien que c'est parce que t'as péché, parce que quand ça va mal, c'est parce qu'on pêche.
Quel est-il son péché?
Ben justement, Job, il dit, j'en trouve pas. Alors, à ce moment-là, ces théologiens-là continuent encore à y dire, parce que eux autres, leur bac en théologie, c'est de dire, ben, la souffrance vient du péché qu'on fait. Mais Job dit, c'est pas vrai, moi, j'en suis pas pire que vous autres. Alors, finalement, ils mettent tous dehors. Tous ces professeurs, ils mettent dehors, ils disent, fermez-vous,
Vos explications ne me satisfont pas.
Justement. Ça vaut rien ce que vous dites. C'est pas bon pour moi. Alors là, il dit à Dieu, c'est toi. C'est avec toi que je veux m'entendre.
C'est avec toi que je veux parler. C'est toi qui vas me donner la réponse.
En tout cas, je veux te faire un procès. Autrement dit, il faut que tu me donnes une explication. Parce que moi, j'ai toujours fait mon possible. Ça allait très bien. Puis là, tout tombe. C'est quoi qui arrive?
Il devient très agressant.
Alors, mais justement, Dieu est comme absent. Il ne trouve pas. Il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Où est-il? Il est-il en vacances? Est-il en Floride? On ne sait pas où est Dieu. Alors, finalement, c'est qui va arriver à Job. Il est couché sur le dos. En Orient, il n'y a pas beaucoup de nuages. Il voit beaucoup d'astres qui arrivent toujours à l'heure. Même nos montres sont basées sur les astres. Ça arrive tout à l'heure. Les animaux accouchent dans la forêt sans vétérinaire. Fait qu'il se dit quand même, ça va, ça marche dans le monde. Il n'y a pas rien que du mal. Alors là, Dieu, il fait comprendre à Job que comprendre le mal qui arrive dans le monde, on a la tête trop petite. Ça fait que le deuxième message de la vision d'Israël sur le mal dans le monde, le premier, c'était parce qu'on est égoïste. Le deuxième, c'est qu'il faut faire confiance. Comme dirait l'abbé Pierre aujourd'hui, il faut aimer Dieu quand même. On a la tête trop petite. La religion n'arrive pas à tout nous expliquer. Notre théologie non plus. Alors, on verra plus tard.
Alors, il reste la foi.
Il reste la foi.
C'est comme Jean disait, le plus grand péché, c'était l'absence de foi.
Oui. Et là, on voit que Job est un témoin de la foi en des pires circonstances et continue à croire en Dieu. C'est pour ça qu'en hébreu, il y a deux mots pour expliquer le mot « foi ». Il y a le mot « bâton » et il y a le mot « émettre ». Justement, Sainte Foi, il vient de s'inventer un nouveau magasin qui s'appelle « bâton ». Alors, c'est quoi la bâton? C'est la foi en Dieu quand on comprend ce qui arrive. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Alors, la « émettre », c'est quand on continue à croire en Dieu même si on ne comprend pas.
C'est un peu celle-là me paraît un petit peu plus compliquée.
Elle est inévitable. Alors, à un moment donné, on est comme en auto, on monte une côte, puis la voiture est à 45 degrés. C'est évident que tu vois le ciel pour t'orienter, surtout dans nos pays, c'est plein de nuages. Tu peux plus t'orienter d'après ce que tu vois en avant. Alors, tu vois plus rien en avant.
Le soleil se raréfie.
Oui, alors tu regardes d'un côté pour essayer de continuer à faire avancer l'auto, parce que si tu n'avances pas, tu ne verras jamais. Alors, les côtés, c'est les dogmes, la prière, nos principes certains de foi. Surtout le symbole des apôtres, l'Écriture sainte. Alors là, à ce moment-là, à un moment donné, tu recommences à voir, et là, c'est la bata, c'est-à-dire tu comprends ce qui t'arrive. Alors Job, c'est continuer à croire quand on ne veut plus rien. Puis Job, à part de ça, il va comme blasphémer à Dieu, il va dire « maudite vie, j'aurais jamais dû venir au monde, on aurait dû me tuer quand je suis venu au monde, le chien de vie ». Et chose étonnante, Dieu va lui dire, il ne fera pas de reproche, il dira à Job, t'as bien parlé. Nous autres, on penserait qu'il dirait à Job, mon petit morveux, tais-toi, on ne parle pas de même à Dieu. Dieu, il ne se fâche pas, au contraire, il dit à Job, t'as bien parlé. Dieu est un thérapeute et il y a des psaumes qui sont faits pour qu'on défoule. Seulement qu'après, on s'excuse.
On comprend donc, M. Truchon, que Job, le pauvre Job, il est très éprouvé. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
Bon, alors, Job est très éprouvé. Finalement, il s'en prend à Dieu. Il comprend qu'il n'est pas capable de régler le problème. Et finalement, il s'en remet à Dieu, il fait confiance. Et Dieu ne lui fait aucun reproche dans sa crise, aucun reproche dans ses revendications. Donc, toutes nos colères et toutes nos crises dans nos thérapies et avec Dieu lui-même sont normales. Autrement dit, ça fait partie de l'histoire de la révélation. Et Dieu dit à Job, Dieu ne fait pas de reproche à Job. Il dit, tu as bien parlé. Alors, c'est étonnant. Mais quand même, en faisant confiance à Dieu, Job retrouve tout ce qu'il avait perdu. Puis, en fait, même plus. Alors, ce qui monte, évidemment, c'est le livre poétique. Pour montrer que quand on fait confiance à Dieu, Il n'y a pas d'échec dans notre vie, il n'y a que des étapes.
Alors, est-ce qu'il retrouve tous ses biens matériels?
Il retrouve tout et encore plus qu'avant. Et encore, il est bien plus fort qu'avant, parce que la souffrance est purificatrice. Job, ça l'a purifié, il est obligé de revenir à ses sources, aux sources de sa foi. Il est obligé de devenir absolument autonome dans sa foi, même quand sa femme lui fait des tentations comme ça, il est obligé de redevenir autonome, il est plus fort, et finalement, il va devenir un homme qui est comme un modèle de foi. Alors, les épreuves, Job a passé à travers l'épreuve, autrement dit, il est resté dans sa foi. Alors, c'était le message de Job, qui est la deuxième vision d'Israël sur le mal dans le monde. C'est que c'est sûr qu'il y a du mal qui vient d'égoïsme, c'est sûr qu'il vient du mal d'une création qui est mal contrôlée, mais la création, elle suit ses lois d'une façon aveugle, à nous de la connaître et de la réorienter et par la connaissance de la perfectionner.
À partir des éléments positifs qui sont quand même là.
Ben, à partir des forces de la nature, qui la plupart du temps est extraordinaire, comme aujourd'hui on est peut-être capable, en travaillant avec un chromosome, de guérir bien des maladies à sa racine. Peut-être même qu'on pourra rendre la vie plus longue, là, prétend-on, prochainement. Là.
C'est la science qui devient au service de la foi.
C'est la science qui vient purifier notre foi, qui remplace nos chandelles par des paratonnerres, mais ça arrête pas Dieu d'exister. Quand on explique l'avenue du monde au monde par le Big Bang puis tout ça, ça n'enlève pas Dieu. Quand on explique aujourd'hui avec l'évolution que l'évolution est inscrite dans la matière avec Darwin, ce n'est pas contre la foi. Au contraire, ça prend un Dieu plus puissant. Au Moyen Âge, on pensait quasiment que Dieu il créait les lapins, il créait les poules, Ben non, il a donné de la puissance à la nature de s'organiser,
de suivre son propre cours
et d'être autonome. Et la nature est autonome, elle suit ses lois. Si le Christ met la paix, si le Christ lui-même met sa main sur un poêle chaud, il va se brûler. La loi est là. Alors, le Christ, il ne mettra pas sa main là. Et dans, justement, Satan, il essaye de tromper Dieu, de tromper le Christ en disant, ben, tire-toi en bas, les anges vont te protéger, tu ne te feras pas mal, mange de la pierre, fais du pain avec ça. Alors, le Christ, il sait que c'est des tentations. Il ne faut pas avoir une foi magique, il ne faut pas se fier à Satan. Il faut étudier la parole de Dieu et suivre donc foi et science sont intimement liés et l'un joue son rôle par rapport à l'autre. La foi nous fait croire plus que ce que la science nous dit et par contre la science est là pour purifier notre foi de certains mythes de charlatanisme, de sorcellerie, de fétichisme. Parce que même c'est pas à cause qu'on a une médaille miraculeuse qu'on peut faire les fous sur la route. Alors c'est ça.
Donc Job est notre exemple de croyant dont la foi a été mise à l'épreuve et qui se retrouve avec une foi plus forte encore, plus profonde encore.
Oui, surtout que quelqu'un qui n'a pas souffert, que sait-il exactement? Alors on continue encore notre histoire. Nous passons à la troisième vision. Celle-là c'est la dernière vision d'Israël, la plus profonde, celle qu'on appelle le serviteur souffrant. Nous allons aller plus lentement. Parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que c'est plus profond.
C'est peut-être plus complexe aussi.
C'est plus complexe aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serviteur souffrant? Là encore, on ne sait pas trop. On appelle ça le Deutéro-Isaïe. Le texte précis, là, ça serait 52-13 à 53-12. Le texte, d'ailleurs, que la liturgie a adopté. Alors, quelle est cette vision d'Israël sur le mal dans le monde? Et ça va être très important. Cette vision-là est capitale parce que c'est celle que va adopter Jésus exactement. Ni plus ni moins.
Il la reprend autrement.
Il la reprend telle qu'elle, et c'est quasiment pour lui que cette vision-là est surtout arrivée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, probablement, le serviteur souffrant, il y a encore quelqu'un là qui est à l'origine du livre, dans le Deutéro-Isaïe, le deuxième Isaïe, parce qu'il y a le premier Isaïe, deuxième Isaïe, troisième Isaïe.
Il y a un personnage qui aurait vraiment existé.
Oui, mais qui, en fait, a servi un peu peut-être à faire l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que, au fond, dans le monde, ce qui est encore plus injuste et incroyable et impensable, c'est que c'est les non-responsables qui souffrent le plus. Israël a perçu ça. Par exemple, vous prenez une famille d'alcooliques, au moins l'homme, lui, au moins, il prend sa chute, autrement dit, il prend son coup, il fait son petit voyage de drogue, toujours, tandis que la femme, elle n'en prend pas. Elle a les fruits négatifs de ça, puis les enfants, c'est encore pire. Alors, c'est pour ça que dans le monde, on voit que la veuve et l'orphelin sont tous ceux qui sont toujours ceux qui souffrent le plus.
Ça, c'est une constatation universelle, on peut la faire tous les jours.
Bien sûr, c'est que les constatations qu'Israël a faites, c'est des constatations que chacun peut faire. Parce qu'Israël est le peuple témoin de tout ce qu'on peut arriver à découvrir.
Elles sont pas originales.
Pas du tout. Elles sont faites pour nous tous. C'est pour ça qu'Israël est le peuple témoin de l'action de Dieu dans le monde et de du processus de l'homme lui-même dans son cheminement. Seulement qu'il est élu dans le sens que il est comme choisi par Dieu pour être le témoin de cette révélation de Dieu-là. Mais il y en a ailleurs des révélations, il n'y en a pas juste en Israël. Mais Israël est comme un privilégié par rapport à ça, et nous aujourd'hui, maintenant, les chrétiens qui continuons. Alors, continuons cette histoire. Alors, Israël prend conscience que c'est encore bien pire. Il y a des gens qui souffrent parce qu'au fond, ils méritent, ils l'ont fait exprès. Il y a des gens qui souffrent et qui ne l'ont pas mérité du tout. Mais au fond, ils sont encore des adultes, comme Job, quand même, capables de s'en tirer.
Et ils souffrent au même titre.
Ils souffrent au même titre. Et même des fois pire. Et par exemple, comme ce n'est pas toujours les gens de la paix qui souffrent le plus, hein, c'est évident. Et finalement, Israël découvre que c'est des gens non coupables qui souffrent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça aurait été un homme qui aurait été condamné pour ses crimes. Premier item, premier élément. Deuxième élément, Israël découvre qu'il n'était pas coupable. Il n'était pas coupable, ce gars-là. Et au contraire, il s'est laissé condamner.
Il avait été condamné à...
Injustement. Mais il s'est laissé condamner. Et pourquoi s'est-il laissé condamner? Parce que c'est un homme juste et il a été soumis à la loi. Ils l'ont condamné, il est en prison. Et finalement, le troisième élément, c'est que le deuxième élément, donc, il est condamné. Le premier élément, il est condamné. Deuxième élément, Israël s'aperçoit qu'il n'est pas coupable. Troisième élément, c'est Israël qui est coupable de l'avoir condamné. Et quatrième élément, ben là, c'est le juge qui s'excuse, celui qui avait jugé, qui avait condamné, c'est lui le coupable. Et finalement, il s'aperçoit que celui qui l'avait condamné, il l'a guéri de sa blessure de l'avoir condamné. Au fond, c'est lui qui était coupable. Alors, c'est exactement le processus de Jésus sur la croix qui, par ses blessures qu'on lui a faites, va nous montrer que c'est nous les coupables, que nous devons le regretter, qu'il nous pardonne, et que Dieu répond à ça par la résurrection. Alors, les blessures deviennent des lieux de thérapie si nous acceptons d'avoir la foi et de les reconnaître, et de reconnaître surtout si on en est la cause, et d'en découvrir le sens, c'est-à-dire une purification, une éducation, une rédemption. Alors, on sait que même pour les médecins, c'est les malades qui en renseignent les médecins. S'il n'y a pas de malade, les médecins n'apprendraient rien. Alors, c'est les malades qui en renseignent les médecins. C'est eux autres leur école. Alors, dans la souffrance est une école, puis le péché est un instrument de Dieu pour nous guérir à cause de son amour, parce qu'il prend sur lui nos péchés et il veut nous révéler son amour à travers ses blessures. Alors, dans les blessures du Christ réside notre guérison de même.